Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Il est un peu plus de midi et donc comme tous les jours, on démarre votre chronique par la chronique le bien manger, le bon, les bienfaits dans notre assiette. Mais Rouhan, l'aliment, enfin la plante aromatique que vous allez nous cuisiner aujourd'hui, ben, il y a deux écoles. Hein. C'est moi qui ai décidé de parler de ça parce que je trouve qu'il y a deux clans sur la coriandre. Il y a ceux qui adorent.
Exactement.
Et moi, ma belle-mère, elle déteste. Elle me dit, si tu m'en mets dans une salade, ça a un goût de produit vaisselle, alors que moi, j'adore ça.
Philippe, dans la... vous aimez ça?
Moi, je fais partie de la team qui ont de la chance de bien aimer.
Moi aussi. Moi, j'en mets partout.
Je suis tellement déçu, je voulais quelqu'un qui n'aime pas la coriandre.
Ah, ça ne m'aime pas. Ma belle-mère,
comment elle s'appelle?
Geneviève.
Geneviève, on peut appeler Geneviève ou pas?
On l'appellera tout à l'heure.
Donc ouais, comme vous l'avez dit, c'est une herbe qui est très clivante parce que c'est soit on l'aime, soit on la déteste. Personnellement, moi je l'adore, j'en mets dans tous mes plats. Aussi bien salé que sucré.
Mais alors pourquoi les gens la détestent, franchement?
Il y a une explication scientifique, il y a quelque chose avec... Il y a un gène particulier, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que...
J'aurais pu vous le faire, je l'avais préparé.
Ouais,
hein, effectivement, il y a une modification
génétique.
Non, je ne l'ai pas préparé, mais c'est vrai qu'il y a des gens... On a fait des études cliniques pour savoir, justement, on a analysé, on a pris des gens qui détestaient la coriandre, qui trouvaient justement que ça avait ce goût de savon, de machine à laver. On a regardé un peu ce qui se passait au niveau de leur code génétique, on s'est rendu compte qu'ils avaient... une variation génétique, non pas les gens qui aiment la coriandre. Donc, il y a cette explication. Bon, de toute façon, vous aimez pas le génétique, finalement.
Bon.
On s'en fout.
Mélanie
allez,
a tout dit, j'ai plus rien à faire, c'est tout, merci.
Bon, mais ils ressentent quoi, donc, ces gens-là?
Non, moi, rien que de prononcer le mot coriandre, ça me met en appétit, ça m'excite. J'ai les papilles qui salivent. La coriandre, comme je vous l'ai dit, moi, je la mets à toutes les sauces. J'aime bien aussi en faire beaucoup des pâtisseries. Mais c'est pas le cas de tout le monde, comme on vient de le dire. Il y a une étude très sérieuse qui démontre que 17% des Européens sont atteints de...
Vous savez quoi ? Coriandrophobie ?
C'est incroyable.
Non, c'est ça ou pas?
C'est ça, ouais.
Non, mais c'est pas
vrai. Je te jure, de coriandrophobie, ça fait flipper.
On a fait une émission sur les phobies juste avant, enfin une intervention sur les phobies, c'est intéressant.
Ouais. Moi, je trouve que ça fait plutôt pitié comme phobie, t'imagines? T'as peur de quoi, toi? Moi, j'ai le vertige. Moi, j'ai peur des araignées, toi? Ah, j'ai peur de la coriandre. En soirée,
vrai,
ça fait pas, non?
Bah ici, vous avez que des gens qui aiment ça, donc allez-y.
Ouais, donc, mais il y en a aussi
on
beaucoup.
On est dans,
qui...
dans la coriandrophilie.
C'est ça. Mais il y en a aussi beaucoup qui n'aiment pas la coriandre. Et parmi les gens qui détestent la coriandre, la plupart attribuent la coriandre à un goût un peu bizarre, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mélanie. Un goût de savon, un goût de punaise, un goût d'eau de javel, des fois.
Incroyable.
Des punaises écrasées, très précisément, parce que les gars sont très pointus.
Ça pue la punaise écrasée, c'est-à-dire.
Il y a des gars qui ont déjà mangé de la javel, il y a des gars qui ont déjà mangé des punaises écrasées, il y a des gars qui ont déjà mangé du savon.
Non, mais vous rigolez, Philippine, mais vous avez senti déjà l'odeur d'une punaise écrasée?
Non, j'avoue que j'ai pas senti.
Bah, testé un jour précisément.
Mais souvent, c'est savon qui ressort.
Ouais.
Savon. Mais vous en servez comment dans vos. Expliquez-nous comment. On a de la coriandre, on aime ça, on n'est pas coriandre.
Déjà, la coriandre, il faut savoir qu'elle s'utilise en feuilles, comme on la connaît tous, mais aussi en graines. La graine de coriandre. Et souvent, les gens qui n'aiment pas la coriandre, la graine de coriandre, ça passe parce que c'est un peu plus doux, c'est un peu moins agressif. Mais en règle générale, on l'utilise très fraîche, en dernière minute, comme ça, dans une poêlée de légumes ou dans une sauce ou dans une poêlée de fruits. C'est ce que je vais vous faire goûter aujourd'hui parce que j'ai ramené quelque chose.
Allez-y, sortez-nous les fruits à la coriandre.
Par exemple, dites-moi, là, parce que c'est l'heure de déjeuner, si je veux utiliser, j'ai de la coriandre chez moi, par exemple, quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec ma coriandre?
Ah bah, regarde, par exemple...
Alors, il est en train de sortir tout son matériel.
Par exemple, regarde, oui, j'ai la boutique qui est juste à côté, c'est l'idéal. Donc, par exemple, Julia, si tu as de la coriandre chez toi, ce que tu peux faire avec un fruit de saison, c'est un truc très cool. Donc là, j'ai pris des prunes.
Mmh.
C'est la fin des saisons, il y a encore de la prune.
Oh, ça sent bon.
J'ai fait roussir un petit peu de miel dans la poêle. Mmh. J'ai balancé mes prunes coupées un peu comme ça vient. J'ai déglacé avec deux jus de citron.
D'accord.
J'ai laissé compoter ça 5-6 minutes. Et quand c'est bien cuit, j'ai balancé une poignée de coriandre hachée.
J'aurais jamais eu l'idée d'en mettre dans des fruits.
Au dernier moment, faut pas la faire cuire pour qu'elle garde tout son arôme, toute sa saveur.
C'est pas tout ça, servez-nous.
Et surtout sa couleur bien verte. Donc regarde, ce que j'ai fait.
Ça sent super bon.
Il y a un yaourt grec nature, très classique.
Ça, tout le monde a ça chez soi.
Voilà, on a tout ça chez soi.
Okay,
on met ça dans le fond du bol.
Hop.
Sur le dessus, on rajoute une belle cuillère de fruits poêlés.
Mmh. Il est généreux
citron,
en plus,
miel,
la coriandre.
Citron, miel, coriandre.
Il y a zéro sucre ajouté. Là, c'est que le miel et le sucre des fruits.
Wow.
Le yaourt est nature.
Et ça, c'est quoi?
Et sur le dessus, on vient mettre des petites noix de pécan caramélisées.
C'est mes préférées, les noix de pécan en plus.
Alors, est-ce que tu as une cuillère, Mélanie?
Bah non, mais je vais manger avec les doigts.
Avec les doigts. Merde, la semaine prochaine, on parlera de
comment bien manger.
Proprement.
On reviendra aux bases avec, déjà, prenez vos couverts, je vais prendre avec les doigts.
Tu veux goûter, Julia?
Moi, je veux bien, mais alors la coriandre, que je comprenne bien à quel moment je l'incorpore dans la recette, Merwan. C'est à quel moment? Tout à la fin? C'est-à-dire une fois que
c'est trop bon, hein?
Souvent, dans la quasi-majorité des recettes, la coriandre, on met au dernier moment, comme je viens de te dire, pour qu'elle garde sa couleur bien verte et tout son goût. Si elle est cuite, elle va avoir tendance à...
J'ai les doigts dans la mélasse, là.
Tant que c'est que dans la mélasse. Non, mais la coriandre, ouais, faut éviter de trop la faire cuire, sinon elle perd son goût, elle perd sa couleur. Et après, elle va devenir terne sans trop grand intérêt.
Mais c'est délicieux, goûtez, Philippine. Goûtez.
Alors, moi, je passe d'abord.
Pourquoi ? Parce que vous n'aimez pas la coriandre ?
Ah si, j'adore la coriandre, et surtout là c'est magnifique parce que les fruits sont tous dorés après leur cuisson. Et surtout, j'ai les effluves, Merwan est juste à côté de moi.
Mais c'est facile à faire chez soi en plus, Merwan, ça, tout le monde peut le faire, non ?
Ça, celui qui loupe cette recette, sincèrement...
J'avais goûté à des sorbets à la coriandre.
Julia, même vous pourriez arriver, j'en suis sûr.
Moi, tu mets de la coriandre n'importe où, je meurs d'amour pour la coriandre. Moi.
C'est beau.
Bon alors là, c'est du sucré, Merwan, mais dans du salé, c'est quoi votre recommandation là ?
Dans du salé, alors là, on va arriver, on est déjà en automne là quasiment, mais on est
ça,
en automne.
Ça s'appelle comme ça.
Alors l'automne, c'est la saison 2.
Je vous adore, Merwan, c'est trop bon.
Ouais, c'est très, très bon.
La saison des champignons.
Ah oui. Bah, oui.
Alors pour faire très simple et très bon marché, des champignons de Paris. Moi, c'est mon champignon préféré et c'est très bon marché, comme je viens de le dire. On les fait poêler au beurre comme ça avec un petit peu d'ail, une échalote ciselée. Au dernier moment, on balance la coriandre avec une omelette. C'est le paradis.
C'est magique. Mais moi, je vais rajouter un petit conseil potager parce que franchement, ça pousse hyper facilement la coriandre.
J'en ai pas moi.
Et ben moi,
ils
j'ai
sont
un
tous
petit
jeunes,
potager.
Mes potes.
Et voilà, Mélanie.
Bam. J'ai deux cuillères si vous voulez.
Philippine, vous avez goûté toujours pas ?
Ah si, je suis bon, en train de manger.
C'est excellent.
Mais je vous attends pas.
Vous l'utilisez,
c'est bon,
vous,
moi,
la coriandre dans vos plats, Philippine ?
Je l'utilise pas assez souvent parce que je trouve que finalement les herbes, en fait la difficulté c'est de les trouver fraîches et du coup ça induit d'aller souvent au supermarché, mais j'avoue avoir eu pas mal de coups de foudre. Je suis hyper contente que Merwan ait...
Pour moi
pour la coriandre, pour nous tous. Mais surtout choisir un plat sucré aujourd'hui, parce que je trouve que c'est la vraie innovation, elle est là-dedans, elle est dans le sucré, et notamment un sorbet. J'ai souvenir de sorbets qui se mettaient soit sur des soupes froides, chaudes, ou carrément en dessert avec des fruits. Enfin, je trouve que c'est très créatif, quoi.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio dans cette dernière demi-heure consacrée à toutes les tendances du moment. Alors c'est à vous, Philippine Darblay, et aujourd'hui, il va vraiment falloir nous expliquer, car vous avez choisi de nous parler des chaussures moches. C'est quoi cette idée ?
Alors je vous expliquerai peut-être un peu plus tard comment j'en suis arrivée à parler de ça, mais c'est vrai que je me concentre plutôt sur l'intérieur. Et il s'est passé un truc dernièrement, c'est qu'on voit pas mal d'éléments d'intérieur qui sortent de chez soi. Mm-hmm. Alors pour en revenir à cette semaine en particulier... On l'a bien vu, vous avez dû remarquer, pour ceux qui habitent à Paris, quelques énergumènes de la mode, c'est bien la Fashion Week. Et il y a eu un gros retentissement dans l'industrie cette année, c'est le rachat de Birkenstock par le gros groupe de luxe LVMH. Alors c'est vrai que la très critiquée chaussure allemande, qui à l'origine était quasi orthopédique, est devenue la chaussure tendance durable. Elle est même d'ailleurs arrivée aux Oscars, au pied de l'actrice Frances McDormand.
Wow.
Est-ce qu'il y en a autour de la table qui en portent ?
Alors, jamais de la vie, moi.
Ah, si, moi j'en porte.
Je déteste ces chaussures.
Oui. Ah, moi j'en porte, mais vous savez...
Vous les mettez sur les tapis rouges aussi, Julia ?
Ah non, ça, j'ai jamais été invitée aux Oscars, mais en tout cas, si j'étais invitée, non, je les mettrais pas, mais autrement, j'en porte avec des cloutés. Vous savez, ils en font maintenant des tendances, quoi.
Avec des petits clous, un peu à la...
Bah, un peu rock.
En fait, ils sont devenus... Effectivement, ils sont devenus très rock. Alors, c'est vrai que normalement, c'est des chaussures qui sont plutôt réservées à un contexte d'intérieur, de l'ordre de la détente.
Mais vous en mettez pour cuisiner, peut-être non.
Moi, je suis toujours en
basket.
En basket, on a le droit de le dire.
Okay. Non, je vous ai déjà vu en croc, menteur, avec des chaussettes.
Comment tu sais ? Non, mais c'est vrai, je cuisine en croc, en caoutchouc.
Bah, voilà.
Parce que c'est antidérapant.
Oui, même les cuisiniers, même les meilleurs, mettent des chaussures moches. Philippine, continuez.
C'est vrai.
Et du coup, ces tenues vestimentaires sortent de chez soi et sont tolérées, voire prisées, dans un cadre dit urbain social. Alors, je sais pas.
Moi, ça me rappelle un peu l'époque des chaussures Ugg, là, non ? Mais celles-là, elles étaient jolies, moi j'aimais bien quand même.
Ah, les chaussures Ugg, voilà, c'est une question de choix.
De goût.
Et bah, après les Ugg, aujourd'hui, bah, évidemment, les baskets se mettent avec des robes en soie, les claquettes sont depuis maintenant pas mal d'années dans les défilés. Et puis, on voit même les tenues de yoga en lycra qui se portent au supermarché. Bref, on sort les tenues confort dans la rue. Et ma grand-mère, c'est vrai, on est un peu désolée, hein. Nos souliers, comme elle dit, ressemblent plutôt plus communément à ce qu'on pourrait appeler des écrases. Mais bon, entre vous et moi, je vous le dis franchement, j'adore cette mode, c'est quand même un vent de liberté. Et puis, plus largement, au-delà de la tendance pour le moche, hein, dont Sophie Braffman nous a même parlé ici, il y a quelques semaines dans l'émission, cette tendance, elle met plutôt en avant une certaine fluidité en fait entre l'intérieur et l'extérieur, d'autant plus depuis la pandémie.
Ça c'est vrai, mais Philippine, après les Birkenstock et les claquettes, c'est quoi la nouvelle tendance des chaussures moches?
Eh ben, la nouvelle tendance des chaussures moches, alors moi perso je les adore, mais ça se dirige vers les sabots.
Ah oui, c'est moche hein. Moi, surtout avec des chaussettes. Hein.
J'adore. Moi, je suis fan. J'ai beaucoup bossé avec dans les pays nordiques, donc ça me rappelle aussi un peu ces univers. Mais les sabots nous viennent à l'origine des Pays-Bas. Hein. C'est une invention du XIIIe siècle qui était plutôt destinée aux métiers de l'agriculture, du travail en usine, bref, tout ce qui est quand même très manuel. Et aujourd'hui, ils sont réinterprétés par tous, notamment par la marque américaine Simon Miller, qui a repris la forme, mais vraiment pour n'en garder que la silhouette, la épurée, lissée. Ça fait un peu un effet futuristique, voire japonais. Je sais pas pour ceux qui ont vu Dune au cinéma. Bon, bah, c'est typiquement une pompe qu'on aurait pu voir dans ce film-là, quoi. Bon, voilà, Proenza Schuller, qui est une autre marque, a fait une version guide Michelin tout boursouflé, comme ça, avec des petits matelas tout autour de la chaussure. Donc, ça a le mérite d'être très créatif. Et puis, en parallèle du sabot classique, on vient d'en parler, il y a la version moderne, la Crocs, qui fait fureur. Alors, la marque américaine fabrique, je ne sais pas si vous voyez, c'est cette sorte de botte courte très épaisse, qui a quand même été citée par le Time en 2010 comme étant l'une des pires, 50 pires inventions.
Je suis d'accord avec eux. Hein. Soit dit qu'on vous a pas entendu encore. Vous en pensez quoi, les Crocs? Vous validez?
Ah, c'est pas possible.
Non,
ça devrait être interdit.
Oui, c'est pas de pointer en soirée.
Bon,
en
Philippine,
crocs,
vous qui aimez les Crocs, dites-nous tout.
Et bah, justement, à force de campagnes marketing et de confinements successifs, elles ont gagné leur légitimité pour habiller nos pieds. Et d'ailleurs, List, qui est une plateforme de recherche de mode, nous dit que c'était le 8e article le plus recherché au monde en 2020.
Les Crocs?
Les Crocs.
Incroyable.
D'où le confinement, etc. Tout le monde a envie de se recentrer sur soi et de confort, on arrête le blabla. Et d'ailleurs, la marque a même collaboré avec Justin Bieber ou même un rappeur qui s'appelle Post Malone sur des éditions limitées qui sont assez étranges. Hein. Il y en a une qui est avec des petites figurines et l'autre qui est un peu version militaire.
Bon, Philippine, vous êtes surtout là pour nous parler de tendances pour chez soi, non? Parce que Merwan, les crocs, les sabots, tout ça, il sait pas trop. Pour travailler, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'il peut mettre chez lui de moche quand il utilise sa coriandre là, avec quoi ça irait bien?
Bah, du coup, justement, si on pousse le raisonnement un peu plus loin. Finalement, si cette année les crocs sortent de votre jardin ou de votre cuisine, bah, je vous parie que l'année prochaine, bah, ce sera totalement in de porter mocassins et talons aiguilles pour aller au lit.
Bah enfin, oui, mais quelle bonne idée.
C'est la logique de cette histoire.
On crée des tendances ici, je crois, dans cette émission.
Bon, sur ce, bonne journée ou bonne nuit. Hein. Vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, à bientôt.
Bon, merci beaucoup, Philippine, pour cette chronique. On va passer tout de suite à la tendance dénichée par Soizic Belin, qui n'a que des baskets aux pieds, pas de crocs ni de...
Soizic,
on sort ses bombes de peinture et ses pochoirs, c'est ça?
C'est ça.
Ce midi,
oui. C'est ça. Aujourd'hui, je vous propose d'allier balade urbaine et rendez-vous culturel. Alors, si vous n'allez pas à l'art, eh bien, c'est lui-même qui viendra à vous. Finalement, c'est un peu ça, résumé, le street art, l'art urbain. Il suffit de lever la tête, parfois même il vous faudra la baisser pour découvrir que l'asphalte a été tagué. En tout cas, les villes possèdent aujourd'hui de nombreuses places, voire des quartiers entiers dédiés au street art. Alors, définition de l'art urbain, pour ceux que j'ai perdu depuis le début de la chronique, c'est un mouvement artistique, mais également un mode d'expression artistique qui est né à la fin du XXe siècle. Il désigne toutes les formes réalisées dans l'espace public. La plupart du temps, on le retrouve sur des murs, des façades d'immeubles, mais aussi sur le mobilier urbain, et les techniques sont variées. Graffiti, pochoir, mosaïque, stickers, affichages, collages. On retrouve de nombreux genres, du poétique au plus trash, simplement esthétique ou revendicatif. Je vais vous donner quelques exemples, comme ma chronique va être très visuelle, n'hésitez pas à googliser les noms que je vais vous donner. Alors il y a Petite Poissonne, c'est de la typographie, des citations de son cru, très féministe, très cru, très trash,
Petite
et
poissonne.
Très engagé. Petite Poissonne.
Il y a Coriandre Man aussi, il s'appelle Merwan, et il fait, si vous voulez, sur certains murs dans la rue, petit brin de coriandre.
C'est bien comme insulte ça, espèce de Petite Poissonne.
Il y a Sept, alors ce sont des mises en scène très bucoliques, enfantines, souvent deux enfants qui jouent dans des tons très pastels, c'est doux, c'est attendrissant. Il y a Shepard Fairey, connu sous le nom de Obey, une de ses œuvres les plus connues, et le buste de Barack Obama, dans les tons bleu, blanc et rouge, vous devez le connaître, on le voit un petit peu partout, notamment en galerie. Invader, de son vrai nom, Frank Slama, ce sont des mosaïques représentant un petit extraterrestre qui imite un jeu vidéo
PC. On en voit plein partout.
Oui,
ça,
oui, et il y a une application qui vous permet du coup de slasher, de flasher les différents Invaders. Vous gagnez
gagner des points. Et partout dans le monde, les gens slash invader. Monsieur Chat, que l'on retrouve souvent dans des endroits inaccessibles, c'est un gros chat jaune qui joue avec et se joue également du passant. Et Jeff Aérosol qui propose lui des gigantesques pochoirs. Et puis il y a l'incontournable, le connu pour son engagement artistique, politique, dont la véritable identité se veut être un mystère.
Banksy,
évidemment. Il y en a donc pour tous les goûts, vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, ces artistes qui n'étaient au départ connus que de leur père le sont d'un public de plus en plus large grâce aux réseaux sociaux, mais aussi aux galeries, puisqu'ils se retrouvent aux côtés, dans le marché de l'art. Une œuvre de street art qui se retrouve en galerie et que l'on peut acquérir est-elle toujours du street art? C'est une question que je me suis posée peu en mode bac de philo et je suis allée la poser à C215.
Le street art, c'est la poésie même de la rue. Ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. On peut le voir, on peut s'en souvenir, on peut le transmettre, on peut le partager, on peut l'évoquer, mais ça ne se vend pas. Et les œuvres qu'on peut acquérir en galerie, ce sont des œuvres d'art. C'est pas du street art, ce sont des œuvres d'art comme il en a toujours existé, comme on peut emmener chez soi. Mais le street art, ça reste avant tout la chose et la poésie même de la rue.
De la poésie, donc. Et ce qui était, il y a quelques années, considéré comme une détérioration de l'espace public est aujourd'hui largement encouragé par les villes qui allouent des espaces dédiés. C'est un coup marketing territorial, un outil de valorisation touristique. Je pense notamment au parcours intitulé Projet Boulevard 13 à Paris, mis en place par une alliance entre la galerie Itinérance qui gère et représente de nombreux street artistes, c'est des agents en fait d'artistes, et la mairie du 13e. Alors le résultat, c'est un musée à ciel ouvert avec plus de 32 fresques à voir et à revoir puisque cette installation urbaine se veut pérenne.
Alors si je comprends bien, on peut flâner comme vous dites, mais comme pour un musée, il y a pas mal de visites qui sont organisées en groupe par des guides, c'est bien ça?
Oui, alors comme l'art se veut pérenne, un peu moins éphémère, il y a donc des guides. Vous avez dans chaque ville des associations, des collectifs qui organisent des visites par quartier, des visites thématiques. Il suffit de taper la recherche sur le net pour ne plus savoir par où commencer. Moi, je vous conseille Paris Zigzag, qui propose deux quartiers à Paris emblématiques du street art, avec des guides passionnés et passionnants, Belleville et la Butte aux Cailles. 1h15 de visite pour 17 euros.
Vous l'avez testé ça?
J'ai testé.
Et alors?
C'est très chouette, vraiment. C'est très très chouette.
Mais Juan, le street art, les tags, tout ça, ça vous inspire? Ça vous plaît? Vous aimez regarder ça?
En fait, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre l'art, moi.
Non, c'est de l'art accessible, justement.
J'aime que les arts de la table.
Bon, il me semble qu'on peut même se former, parce que justement, Merwan, il ne connaît rien, mais il est aventurier, je le sens. On peut se former, il y a même des écoles. Est-ce qu'il y a des écoles qui proposent des stages pour se former au street art? Merwan peut être art de la cuisinier artistique, mais street artiste aussi, bientôt peut-être. Alors voilà, donc si vous n'aimez pas effectivement regarder, observer, si vous considérez que ce n'est pas votre gros kiff, vous pouvez vous y mettre. Tout simplement. Alors, l'art urbain, c'est de l'art, comme vous le dites, mais il y a aussi le graffiti. C'est un peu la technique la plus pratique, la plus simple, peut-être, pour aborder cet art particulier. Alors, si vous souhaitez taquiner la bombe, le collectif Graffiti Paris propose des ateliers d'initiation en groupe ou en individuel, entre 39 et 190 euros. Et c'est à partir de 10 ans, donc très accessible.
Taquiner la bombe, 190 taquiner euros, mais dans le quartier où je suis né, ils ne payaient pas ça pour taquiner la bombe.
Déjà, la bombe, il ne la payait pas. C'est une véritable formation, vous ne vous rendez pas compte, avec des vrais artistes reconnus, etc.
On peut faire ça avec les enfants, en famille, en
plus. À partir de 10 ans. C'est hyper ludique, et faire ça en famille, c'est vraiment, franchement, je trouve ça assez chouette.
Mais nous, on fait ça en pâtisserie, sur les gâteaux, avec des pistolets, on fait de l'aérographie, tout ça.
Et ça coûte moins cher, c'est ça?
Non, ça coûte plus cher.
Voilà, bon ben voilà, finalement. Alors, je finirai cette chronique sur les mots de la Funky Family.
Ambiance scandale, danse de vandale, d'un d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, rappeur.
Merci beaucoup, Swazik. Merci à tous les trois. En fait, pour cette demi-heure à table, ensemble à décortiquer ces tendances, on s'est bien régalé une fois de plus.